France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Piotr Anderszewski, je suis né à Varsovie en 1969 et je suis pianiste.
Hier, Piotr Anderszewski évoquait le ravin entre l'idéal et la réalité d'une interprétation. Aujourd'hui, écoutons le pianiste polonais revenir sur le toucher, sur le doigté, le fait de ne pas fabriquer son propre son, contrairement à un violoniste par exemple. Est-ce pour lui un regret ?
Ne pas fabriquer mon propre son me frustre, je dirais. C'est-à-dire l'obstacle entre le doigt qui active la touche de l'instrument et finalement le marteau qui frappe la corde, l'obstacle est tel, ça peut être extrêmement frustrant. Oui, oui. Comment faire pour vraiment toucher le son au piano ? La marge de manœuvre au piano est très limitée en termes de son, par rapport au violon justement. Hein, finalement, vous mettez un chat sur un clavier, il marche, il fait des sons, je veux dire, c'est extrêmement simple de faire un son au piano. Qu'est-ce qui fait que un pianiste sonne d'une façon, un autre d'une autre ? Je ne peux pas vous dire. Je pense de plus en plus que le son en soi, c'est-à-dire que si vous jouez une note au piano, ça importe peu. Ce qui importe surtout, c'est comment vous allez jouer la note suivante. C'est-à-dire que, et finalement, c'est une question de temps et c'est une question de dynamique. Et comment vous rejoignez les choses avec ces deux paramètres, le temps et la dynamique. Je crois que c'est ça qui donne l'illusion même du son. Je dis quelque chose d'un petit peu peut-être extrême, mais je pense qu'il y a aussi autre chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mais bien sûr, il y a la rapidité de l'attaque, il y a plein de paramètres.
Puis la force de suggestion de l'interprète aussi, d'une certaine façon. Son rapport même à l'instrument donne au son une dimension.
Cette force de suggestion fera que vous jouerez une note d'une certaine manière et la suivante dans une dynamique et un temps très spécifique. Mais c'est la force de suggestion qui va faire ça. Mais là, on parle de l'aspect physique. L'aspect physique, je crois, est assez limité au piano. Enfin, je ne sais pas, je raconte peut-être des bêtises. Après, il y a aussi, bien sûr, notamment dans Bach, toute la question de la polyphonie. Comment faire que ces voix indépendantes, comme elles sont écrites, qu'elles soient vraiment audible en tant que voix. Mais là aussi, il y a beaucoup de questions de dynamique et de temps. Mais ça, c'est des différences qui peuvent être très minimes et qui font en fait toute la grande différence après, à la fin. Le piano, je pense, est un instrument qui suggère plus qu'il ne dit, finalement. C'est assez diabolique.
Vous évoquiez plutôt le travail polyphonique chez Bach, où là, le rapport main gauche, main droite n'est pas le même que par exemple quand on joue du Chopin, quelque chose d'intrinsèque comme ça, des deux mains, et le doigté, et j'imagine quelque chose de primordial, il fait partie de ce travail-là.
Le doigté, pour moi, absolument, oui, mais ça, encore une fois, c'est très personnel, mais plus la musique est polyphonique, plus le doigté est quelque chose, chez moi, de conscient et quelque chose que je décide, c'est quelque chose que je ne peux pas commencer à travailler l'œuvre sans avoir établi le doigté. C'est comme une chorégraphie, le doigté.
Donc il y a une dimension esthétique du doigté.
Oui, je pense. Enfin, il n'y a pas une dimension esthétique en soi, parce qu'un doigté, est-ce qu'un doigté est beau ? Non, je ne sais pas. Mais un certain doigté peut faire jouer une phrase d'une certaine manière. Surtout, c'est une question de lisibilité, je pense. Le doigté, c'est par rapport à ça. Oui, finalement, on a ces 10 doigts, 5 doigts à chaque main, et toutes ces notes. Bon, j'aurais aimé avoir 2 doigts de plus, mais j'en ai pas.
Et aujourd'hui, vous travaillez avec plus de plaisir que quand vous étiez plus jeune ?
Oh, ça dépend. Il y a des périodes. Des périodes d'enthousiasme, d'euphorie même, et d'autres où je n'ai pas envie. Je suis écrasé par la responsabilité aussi.
La responsabilité par rapport à l'œuvre ou par rapport aux oreilles qui la reçoivent ?
Vous savez, l'un et l'autre. Par rapport à l'œuvre, certainement. Certainement. Et par rapport à soi, puisque c'est quand même moi qui joue. Si je ne fais pas justice à l'œuvre, je me sens aussi mal envers moi-même. Mais c'est aussi par rapport aux autres, parce que je trouve qu'on a une... Si mon métier consiste à jouer quand même pour les autres, c'est ma vie, c'est ma profession, ça sonne un peu terrible, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a une certaine responsabilité envers les autres, de présenter l'œuvre de façon la plus belle, la plus lisible qu'on puisse, voilà, la plus vraie.
L'apprentissage que vous avez eu, Piotr Andrzejewski, il y a quand même une partie dont on n'a pas encore parlé. Après cette Académie Chopin, vous allez avoir une bourse pour aller étudier en Californie. C'est la fin des années 80,
oui.
À peu près. Mais alors, à ce moment-là, j'imagine...
Vous avez appris tout ça.
J'imagine qu'à ce moment-là, quand on est dans la Pologne sous occupation communiste...
Sous occupation
soviétique communiste, oui. c'est un peu un rêve, c'est un peu un mythe, partir à Los Angeles, non ?
Oui, en effet, oui, oui.
Donc quand on a 18 ans en plus, enfin, je sais pas.
Oui,
que...
18, 19, oui, oui. À 18, je crois, encore, oui. Oui, en effet, c'était un rêve. Et puis bon, il y avait un mythe de l'Amérique, surtout en Pologne, des grandes écoles américaines, mais aussi d'un mode de vie, enfin, voilà. Mais moi, c'était surtout... à l'époque, j'étais quand même... terriblement ambitieux pour le piano.
Tout en étant flemmard.
Oui, là, j'étais moins flemmard, peut-être, à cette époque. Enfin, j'ai toujours été flemmard, mais disons, il y avait beaucoup d'ambition. Je voulais faire ça le mieux possible. Et oui, c'était une grande, grande chance en Amérique. Ceci dit, je ne suis pas resté très longtemps.
Vous avez été déçu ?
Je peux dire que oui, oui.
Par quoi ?
Ben, par l'enseignement, par l'espèce de manque de rigueur, mais aussi surtout, j'avais l'impression que en Pologne, avec toutes les limites, le métier de pédagogue était un métier quand même qu'on prenait au sérieux. Un pédagogue était quand même là pour vous. Et là-bas, j'avais quand même l'impression que le pédagogue, que vous êtes là pour le pédagogue, pour qu'il brille.
C'était qui votre professeur là-bas ?
Je ne devrais pas le dire, ça. C'était un très très bon musicien, d'ailleurs. Non, mais je peux le dire, en fait, John Perry. C'était un très très bon musicien qui adorait Beethoven et Schubert, notamment. C'est deux compositeurs qui jouaient vraiment très bien. Mais c'était pas par rapport à lui, c'était tout un système qui faisait, par exemple, que vous veniez au cours quand vous aviez envie. Donc on s'inscrivait à « j'aimerais avoir cours dans 10 jours » et on s'inscrivait sur la porte... du studio, avait les dates, les heures, et voilà, il fallait s'inscrire. D'abord, ça m'a beaucoup plu, ça, mais ensuite, ça m'a paru complètement... Et une chose m'a choqué, Je me souviens, je travaillais la barcarolle de Chopin à l'époque. Et donc j'ai joué la barcarolle, je l'ai apportée en cours. Le cours était très bien. Et puis voilà, après il fallait m'inscrire pour le cours suivant. Donc je ne sais pas, une semaine, 10 jours sont passés, je suis revenu avec la barcarolle. Et le professeur me dit, mais pourquoi tu reviens avec le même morceau ? Déjà, je t'ai donné cours sur ce morceau, tu apportes autre chose. Alors ça, par exemple, en Pologne, la barcarolle de Chopin, on la travaillerait 4 mois ou 6 mois. Voilà. Et chaque semaine. Moi, j'avais quand même besoin, si déjà on parle de cours, d'enseignement, quand même d'une certaine discipline, d'une échéance. Voilà.
On a le sentiment, à vous entendre, Piotr Andorchevski, que oui, vous avez eu des professeurs, que évidemment vous avez dû glaner chez les uns, chez les autres, des choses, mais que l'enseignement le plus fort que vous ayez eu, c'est d'apprendre par vous-même.
Mais Richter a été mon professeur, finalement.
Par le disque avant la rencontre.
Par le disque, oui.
Parce que vous l'avez rencontré
plus
aussi.
Plus tard, oui. Il est vrai aussi que vous m'avez posé la question si j'étais rebelle. J'y pense un petit peu maintenant et peut-être que finalement, oui, j'étais toujours en rébellion avec les profs. En fait, je les aimais pas la plupart du temps. J'étais, que ça soit à Los Angeles, que ça soit à Varsovie, j'avais besoin de m'opposer. C'est vrai aussi. C'est peut-être justement comme ça que je me suis un peu construit par une opposition à ce qu'on me proposait, finalement. Et mon opposition, je le reconnais maintenant, c'est très très bête et stupide. J'avais complètement tort. Mais la question n'est pas là. Chaque moyen est bon pour se construire, finalement, non ? C'est le résultat qui compte à la fin. Après Los Angeles, je suis rentré en Pologne. Et j'ai eu quand même un professeur qui m'a énormément marqué. Il est venu donner des classes à Varsovie. Amadeus Weberzink, il s'appelait. Et il a fait une semaine de masterclass. J'apprenais les variations Diabelli à l'époque. Et je les ai jouées pour lui et je suis tombé amoureux de ce type. Vraiment.
Et des Diabelli, ou vous les connaissiez déjà avant?
Je les connaissais un peu avant, mais lui, c'était une figure tellement belle et tellement humaine. Et c'est un des seuls profs chez lequel ensuite je faisais des voyages. J'allais à Dresde jouer pour lui. Oui. Donc j'ai eu... Mais combien de fois en tout j'ai joué pour lui? 3-4 fois, pas plus, vous voyez. Donc, mais c'est une figure qui m'est... à l'époque, quand j'avais quoi, 19, 20 ans, c'était quelque chose d'assez fort. Je me souviens, il m'a dit une fois, je travaillais les Diabelli avec lui et j'étais très excité sur une variation... Puis je jouais avec grande fougue et il m'a arrêté. Il dit mais tu regardes, c'est écrit forte. C'est forte piano. C'est la variation 17. Et il m'a dit mais c'est écrit forte. Mais il m'a dit joue forte. Mais j'ai dit non. Tu es forte. Tu ne joues pas forte. Je ne veux pas que tu sois forte. Tu joues forte. Et ça, je me souviens, c'est quelque chose qui m'est resté parce qu'en fait c'était. Il parlait d'une distance et d'un engagement qui était beaucoup, beaucoup trop excessif de ma part. Écoute, il m'a dit. Joue forte et écoute le son que tu produis. Et il jouait génialement aussi. Il y a eu quand même quelques personnes comme ça.
C'est quoi la bonne distance, alors ?
Ah, la bonne distance. C'est quoi la bonne distance ? Ben, si je vous répondais, on aurait toutes les recettes. Recette que je n'ai pas, malheureusement. La bonne distance, je crois que c'est un équilibre. Et c'est très, très, très personnel.
Il y a des œuvres avec lesquelles c'est plus difficile.
Il y a des œuvres avec lesquelles c'est impossible. Il y a aussi des œuvres qui ne le demandent pas, je dirais. Donc, il y a des fragments d'œuvres où peut-être parfois, où la distance... Pourquoi la distance ? Il faut aller jusqu'au bout et se lâcher complètement.
Et ça fait peur, ça ?
Non. Non. Pourquoi ?
De plonger.
Non. Je dirais la peur est quelque chose qui, dans l'art, est quand même très néfaste, généralement. Affronter une œuvre, affronter l'humoresque de Schumann, par exemple, affronter une œuvre soi-même, la travailler, aller dans les recoins les plus secrets, vraiment se donner à fond, sans aucune distance, c'est une chose. Aller sur scène, la jouer, c'est encore autre chose. Ça fait peur. Et quand on est sur scène, la distance, je pense, est indispensable. Pour communiquer, si on n'a pas de distance, on communique moins bien. L'œuvre est intégrée à un tel point, qu'elle fait partie de nous à un tel point, qu'on ne doit plus y penser, qu'on ne doit plus la ressentir sur le moment. Et que quand on est en face d'un public, on ne la ressent presque plus. C'est peut-être horrible ce que je dis, mais on est juste un véhicule.
Et est-ce qu'on joue mieux en public que pour soi ?
C'est pas mieux. Mieux pour qui ? Pourquoi ? Mieux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mieux dans l'absolu ? Ben, vous pouvez comparer.
Est-ce que le public co-crée avec vous ?
Bien évidemment. Et je suis persuadé qu'un public co-crée un concert. Enfin, moi, je suis très sensible à ça.
Les grands entretiens de Piotr Anderszewski, Judith Chen, France Musique.
L'Angleterre, c'est un pays important pour vous.
Pour moi,
parce
oui.
qu'en 1990, il y a le concours de Leeds. C'est un peu là où, paradoxalement, j'oserais dire, votre carrière commence, paradoxalement, parce que vous arrivez en demi-finale de ce concours et que vous partez au milieu. Vous êtes pourtant le favori du concours,
oui.
A priori, tout le monde est derrière vous. Qu'est-ce qui fait, Piotr Anderszewski, qu'à ce moment-là...
Oh, j'en ai tellement parlé.
On finit pas. Est-ce que c'est de la peur, de l'orgueil ?
Qu'est-ce qui... autocritique absolument maladive et aussi une espèce de culpabilité envers les autres, que pour comment ça se fait que moi je passe en finale et les autres... Vous voyez ces visages déçus et triste, c'est le seul concours que j'ai fait, je pense pas que j'en ai pu refaire après. Et je préfère juste m'en aller, vraiment. Ouais. Mais qui aurait pensé que ça déclencherait une réaction pareille ? Ça, c'est très paradoxal. Ouais. Mais voyez ce que les agents, les organisateurs, etc., parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt à l'époque pour moi. Ce que les gens ne s'imaginent pas, c'est que si quelqu'un fait un numéro comme je l'ai fait, ben ce quelqu'un n'est vraiment pas prêt pour une carrière. Vraiment pas, parce que j'étais beaucoup trop fragile. Mais les gens ne pensent pas à ça. Et voilà, j'ai eu un agent, j'ai eu des concerts. Mais les premières années, ça a été... J'ai failli tout casser quand même. Hein. Il y a eu 2-3 années où j'ai annulé, j'ai changé de programme, vous ne pouvez pas vous imaginer.
À ce moment-là, vous allez assez vite faire de la musique de chambre avec Victoria Mulova, par exemple, qui est quelque chose que vous faites assez peu, finalement.
Oui.
Vous êtes peut-être avant tout, Piotr Anderszewski, un récitaliste.
Oui.
Mais est-ce que justement, la musique de chambre, c'est pas une façon de partager un peu les responsabilités, même si c'est une façon
bien
de faire des compromis également.
Bien évidemment. Oui, et puis notamment avec le violon, du fait, ne serait-ce que du fait que ma sœur était violoniste, donc on jouait naturellement ensemble à la maison, donc le violon, c'était toujours quelque chose de très naturel pour moi. Mais comme vous le dites, finalement, je reviens au solo. Morceau de musique, c'est des énormes banalités. Morceau de musique a un début et une fin. Bon. Et avant ce morceau de musique, il y a le silence, et après, en principe, il y a le silence aussi. Donc, il y a un cadre dans tout ça. Et déjà, pour moi, le silence est primordial. C'est entendre le silence pour pouvoir jouer la première note, entendre le silence qui va précéder la première note. Parce que La première note du morceau, elle n'arrive pas de façon à ah ben elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive sur quelque chose qui s'est déjà passé. Et le silence, ce n'est pas le vide. Et c'est la même chose avec la fin. Quand vous jouez la dernière note, il y a quelque chose après. Il y a du temps qui doit s'écouler. Voilà, pour moi, l'architecture, entre autres, c'est ça aussi. Oui. C'est comme, je ne sais pas, vous voyez, je vous donne une comparaison très bête, mais vous voyez un très beau bâtiment, il a un début et une fin, une hauteur, une proportion. Vous devez définir les contours. Mais le silence, c'est pas forcément se mettre au piano dans une salle et attendre 10 secondes et commencer à jouer. Vous pouvez vous ruer sur le piano comme Richter et à peine assis, commencer à jouer. Ça n'a rien à... Le silence, c'est quelque chose qu'on porte. Mais ce que je voulais dire par exemple, c'est que pour moi, à la base de la musique, il y a le silence et pas le son. Sur le silence vient le son. Voilà. Thank you.
À la base de la musique, il y a le silence, disait à l'instant Piotr Andorchevski. Et c'est avec ces variations pour orchestre de Webern, dirigées par Pierre Boulez, que se referme le troisième épisode de ces grands entretiens avec le pianiste polonais. Réalisation Lionel Quentin, prise de son d'Ofar Guéride, mixage Marie Le Peintre, attachée de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.